voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation comme chaque semaine et on s'interroge sur l'enseignement secondaire en Afrique. À quand la gratuité pour les familles ? C'est un paradoxe dans de nombreux pays. L'université coûte parfois moins cher que le collège ou le lycée. Alors certes, les adolescents n'ont pas le même pouvoir de la rue que les étudiants, mais au-delà de ces considérations politiques, l'enseignement secondaire payant est-il un frein à l'éducation des jeunes, en particulier des jeunes filles, et plus largement un frein au développement d'un pays ? Les contributions des familles sont-elles essentielles pour un enseignement de qualité au collège, au lycée ? On regardera aussi en zone anglophone, du côté du Ghana, où l'enseignement secondaire est en principe gratuit, mais au prix de certains sacrifices, comme nous l'expliquera une enseignante ghanéenne. Les voisins et les voisines, bien sûr, on attend vos témoignages en direct. Dites-nous, par exemple, combien vous payez à l'école secondaire publique pour scolariser les enfants de la famille. Le compte WhatsApp, c'est toujours le même, 33 7 64 45 51. 41 dans le studio des 7 milliards de voisins. J'accueille François Robert. Bonjour François.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes spécialiste de l'éducation en Afrique. Vous avez publié Binetta et Mamadou, bref chronique des écoles africaines au début de notre siècle, aux éditions Gandal. Vraiment un livre de terrain sur l'éducation du continent. On sera également en ligne avec une proviseure de lycée à Dakar, Fatimata Sossar, qui est proviseure au lycée public de jeunes filles Kennedy, dans le quartier de Koloban. En fin d'émission, comme toujours, la chronique du psychologue Ibrahim Aïdara à Bamako, parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Et je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux, notamment notre compte WhatsApp, je vous rappelle le numéro. Vous pouvez poster des messages écrits, des messages vocaux et nous appeler, surtout maintenant que l'émission a démarré en direct, nous appeler de vive voix. 33 7 64 45 51 41. Brahim est à Abéché au Tchad et il nous dit que les autorités disent que l'enseignement secondaire est gratuit, mais quand vous allez inscrire votre enfant, l'administration du lycée vous demande de l'argent. C'est une réalité que nous vivons chaque année. Archiduc N'Djamena confirme, la gratuité n'existe pas dans les écoles publiques en Afrique, il faut toujours payer un petit quelque chose. Vous confirmez, François Robert, que cette notion de gratuité, c'est déjà une notion qui est complexe sur le continent ?
C'est quelque chose de complexe. Il faut toujours payer quelque chose, oui et non. Ça dépend quand même des pays. Tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne sur ce terrain-là. La gratuité à l'école primaire, il y a quand même des pays d'Afrique subsaharienne où ça existe. Dans les écoles secondaires, collèges et lycées, c'est plus rare, en effet. Et là où c'est quelque chose de complexe, c'est que... Parfois, on peut avoir supprimé ou limité des droits d'inscription qu'on a directement perçus dans l'établissement. Donc c'est un aspect des choses. Puis après, il reste des dépenses qui sont généralement à la charge des familles. Le matériel, le petit matériel scolaire, ouais. Les uniformes, les manuels, etc. Et malheureusement, lorsque les États, les gouvernements disent « désormais, l'école sera gratuite », ils ne précisent pas forcément exactement ce qui va être gratuit. Et donc, il y a de la frustration de la part des gens.
Alors bien sûr, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On parle de l'enseignement secondaire gratuit sur le continent africain. Est-ce souhaitable ? Est-ce que c'est un frein à l'éducation des jeunes, le fait que ça soit payant ? Vous nous appelez, on accueille un auditeur. On a bien Abdoul en ligne qui est à Niamey au Niger. Bonjour Abdoul.
Bonjour Madame Delphine.
Moi, c'est Emmanuel. Oui, c'est Delphine que vous avez eue tout à l'heure, Abdoul. Alors, vous nous appelez, c'est intéressant parce que vous avez 18 ans, vous êtes un élève de terminale à Niamey. Je crois que là, cette année, vous êtes dans un lycée privé, c'est bien ça, hein ?
Effectivement, c'est ça.
Oui, mais vous avez fait une partie de votre scolarité du secondaire, notamment le collège, dans le public à Niamey.
Oui, j'ai fait dans le public, c'est de la 6e jusqu'à la 3e.
D'accord.
Après avoir eu mon BPC, j'ai quitté l'école publique pour m'adapter aux écoles privées.
D'accord. Abdoul, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de vent autour de vous. Essayez de vous mettre dans un endroit abrité, si c'est possible, pour le confort de nos auditeurs. Abdoul, vous avez, lorsque vous étiez dans l'enseignement public, dans le secondaire public, c'était combien les frais d'inscription ?
Pour l'école publique, c'était 2000 francs. Et ça, c'est pour rien d'autre que la COGES. La contribution pour la COGES.
C'est-à-dire la COGES ?
Bon, c'est une sorte de contribution qu'on fait pour pouvoir construire au moins les classes. Oui. Parce qu'il y a des classes en paillette des fois. Mmh. Quand il y a des difficultés au sein des classes, pour pouvoir les réparer, il faut une contribution.
D'accord, donc en fait, ce n'était pas vraiment des frais d'inscription et c'était une somme extrêmement modique. Hein. 2000 francs CFA, ça fait 3 euros,
à peu près 3 euros.
Hein, François Robert. Et sinon, tout le reste était gratuit.
Tout le reste était gratuit. Mmh. Les documents, on nous partage des documents, des BIC. On peut les utiliser jusqu'à la fin de l'année même.
Ouais. Et alors, pourquoi vous avez quitté l'enseignement public en tant qu'élève ?
Bon, ce n'était pas trop... En tout cas, pour nous, ici, dans notre pays, toutes les écoles, les plus grandes écoles qui aboutissent, c'est justement les écoles privées.
Qu'est-ce que vous entendez par aboutir ?
C'est les écoles privées seulement qui arrivent à donner le plus grand résultat qu'on veut d'un établissement.
Mmh. Le baccalauréat ?
Le baccalauréat et les autres aussi. Ainsi même, à travers les éducations et autres, ils ont les plus bons encadreurs même.
Oui, mais pourquoi ? Parce que les professeurs que vous aviez là, les années précédentes jusqu'à la troisième, ils venaient bien enseigner dans votre collège.
Bon, mais pas tout à fait pour le privé, parce que des fois, les professeurs chôment et... Par contre, dans les écoles privées, ce n'est pas le cas.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que les professeurs chôment, ils ne viennent pas assurer leurs heures de cours dans le collège public ?
Oui, ils viennent des fois régulièrement, mais pas trop.
C'est ça, pas toujours régulièrement. Ça veut dire que du coup, pendant ce temps, ils peuvent aller assurer des heures de cours dans le privé, même s'ils sont payés par le public ?
Oui, c'est ça.
D'accord. Merci Abdoul en tout cas de nous avoir appelé. Un autre témoignage nous est arrivé de Nasser qui est également à Niamey. Il est en master, mais il dit effectivement qu'il n'a jamais payé de frais d'écolage de toute sa scolarité. Au primaire, on faisait cours par terre, chacun apportait sa natte. Il y a eu des tables à partir du collège et en terminale, c'était toujours gratuit, mais il manquait des profs. C'est un peu ce que nous disait Abdoul tout à l'heure au téléphone. J'ai passé mon bac sans prof de maths, avec l'aide des annales. On ne peut pas parler de qualité si on ne paye pas. Le modèle de la gratuité de l'école publique conviendrait si l'État investissait dans la construction de classes en dur, si l'État assurait la promotion de l'éducation, de la cantine, si l'État augmentait le nombre et les salaires aussi des enseignants. Et à titre de comparaison, on nous dit que la fac est payante, très peu chère, hein, 10 000 francs CFA, c'est-à-dire 15 euros l'année. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces témoignages, finalement, François Robert ?
Je crois que la première chose qu'on comprend, c'est que la frontière entre le public et le privé, elle est assez floue, en fait. Que si on est dans le public, parfois il va falloir payer pour un certain nombre de choses, alors que dans le privé c'est plus clair, et que du côté des enseignants il y a des allers-retours, des enseignants du public qui vont négliger un petit peu leur service dans le public pour pouvoir fructifier dans le privé. De même que on a souvent une pratique dans le public où des enseignants vont faire payer, soit pour diffuser des documents, des brochures, des annales, des fascicules, quel que soit donc sa porte, ou bien pour donner des cours de soutien qui sont pas obligatoire, mais dans lesquels finalement on va quand même forcer les gens d'une façon ou d'une autre à assister et à payer. Donc la frontière entre les deux, elle est parfois un petit peu floue.
Ouais, néanmoins, le Niger fait tout de même partie de ces pays où, bien qu'ayant une très forte pression démographique, on a un secondaire qui peut être en partie gratuit.
Oui, le Niger, par tradition... encadre vraiment les frais d'inscription lorsqu'ils existent au secondaire. Et surtout, le Niger est un de ces pays qui a comment dire, qui a suivi la pression démographique et qui a pu éviter le phénomène des enseignants communautaires ou des enseignants volontaires, des enseignants payés par les familles. Alors ça va pas beaucoup au-delà, et en effet, le témoignage de ces auditeurs, il est conforme à ce que j'ai vu de nombreuses fois au Niger. C'est très rude, il n'y a pas grand-chose dans les établissements publics, il y a beaucoup de constructions provisoires en végétal, en paillote, etc. Manuel, faut pas y compter, mobilier, c'est très rare, mais il n'y a pas d'enseignants communautaires au Niger. Ce qui fait une charge importante de salaire qui ne porte pas sur les familles.
Sur les familles. Vous continuez bien sûr de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. On parle de l'enseignement secondaire gratuit ou pas sur le continent africain. On donne la parole à Marshall qui est à Kinshasa en RDC. Bonjour Marshall.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Alors vous avez deux enfants à l'école primaire publique.
Oui, je suis parent, j'ai deux enfants à l'école primaire chez le public. En même temps, je suis enseignant chez le public. Le modèle pour nous en République démocratique du Congo, c'est qu'à l'école primaire, nous ne payons pas. L'enseignement est gratuit. Mais au secondaire, ce n'est pas gratuit du tout. Il y a des frais, de petits frais minimisables qu'il faudrait payer pour contribuer au fonctionnement de l'école. Et par exemple, au secondaire, on paye quelque chose de 18 dollars toute l'année. Et aux humanités, ça dépend de la section, soit elle est technique ou générale, il faudrait payer quelque chose de à peu près 28 dollars et 25 dollars.
Ce que vous appelez les humanités en RDC, c'est l'équivalent du lycée, hein, c'est bien ça?
Oui.
Est-ce que les frais ont un petit peu baissé, puisque la RDC a mis en place avec beaucoup de difficultés l'enseignement gratuit en primaire, hein, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Néanmoins, sur le secondaire, est-ce que les frais ont diminué ou pas?
Oui, nous sentons de la volonté politique de la part du régime en place avec le président Tshisekedi. Les frais ont sensiblement baissé. Je pense qu'au fil du temps, peut-être que cette gratuité sera totale au secondaire, mais les frais ont sensiblement baissé. Malheureusement, que la pauvreté qui gangrène le pays ne permet pas à certains parents de payer même le petit frais qui se trouve être minimisable.
Ça veut dire quoi, ces petits frais, Marshall?
Oui, parce que avant, ce qu'on payait était plus, parce qu'on pouvait payer jusqu'à 60, 70, 80 dollars. Et actuellement, c'est 18 dollars toute l'année et pour la section générale. Et les autres sections techniques, c'est 28 dollars quelque chose toute l'année. C'est minimisable, mais certains parents éprouvent toutes des difficultés.
Oui, ça reste important pour certaines familles, mais ça a baissé. Merci Marshall de nous avoir appelés. Vous pouvez bien sûr continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. La RDC, est-ce que le débat est peut-être arrive trop tôt sur la table de l'enseignement secondaire gratuit, alors que l'enseignement primaire est loin d'être effectif sur le plan de la gratuité, vu l'étendue du territoire aussi, François Robert?
Pas seulement vu l'étendue du territoire, mais déjà l'enseignement public en RDC n'accueille pas la majorité des élèves au secondaire, et il accueille peut-être, je dis ça de mémoire, un peu moins des deux tiers des enfants des écoles primaires. Donc de toute façon, il y a déjà ce problème-là, et avec un grand nombre d'enseignants qui sont payés par les familles. Donc parler de gratuité d'inscription, de suppression, de limitation des frais d'inscription, c'est très louable, bien entendu, mais tant qu'il reste des enseignants à rémunérer directement par les familles, ça fait des charges importantes qui vont continuer à peser sur elle. Donc ça, peut-être un peu le cas particulier de la RDC. Après, là-bas, encore plus qu'ailleurs, la frontière entre le public et le privé est extrêmement ambiguë et floue, puisque un grand nombre d'établissements scolaires qui relèvent des réseaux confessionnels sont considérés comme publics par le gouvernement, parce qu'on y affecte aussi des enseignants publics Bon, c'est une situation un petit peu complexe.
Un message de Sama qui est à Lomé, au Togo. Il nous dit seule l'école primaire publique est gratuite depuis 2011. Abel, également, dans la capitale togolaise, nous dit que la gratuité de l'école primaire a fait baisser le niveau de l'éducation, faute de subventions et d'accompagnement des écoles par l'État. Les frais d'écolage au collège sont en moyenne de 20 euros par an. Vous confirmez ce tarif ?
Oui.
La gratuité au collège tuerait le système éducatif qui est déjà à l'agonie, faute de livres et de subventions. C'est la pauvreté qu'il faut combattre.
Oui, alors... Bon, ça, tout ça est un petit peu compliqué. Quand on supprime les droits d'inscription, il faut que l'école, le collège, le lycée trouvent les moyens d'assurer les petites dépenses courantes, les réparations, les consommables, la craie, la connexion à l'électricité, enfin tout ce genre de choses. Donc un gouvernement, lorsqu'il dit qu'on supprime les droits d'inscription, il met en place un système de subventions et après, il a souvent bien du mal à alimenter ce système de subventions. Pour plein de raisons, éventuellement on peut rentrer là-dedans, mais parce que c'est de la dépense courante non salariale. Quand on fait le budget, on reporte d'une année sur l'autre ce qui n'est pas compressible, c'est-à-dire par exemple les salaires, bien sûr, les frais d'examen, les frais de fonctionnement de l'administration. Et puis, ce qui vient au-delà, c'est-à-dire par exemple les manuels scolaires ou bien les subventions aux écoles pour leur fonctionnement, c'est s'il y a de l'argent, s'il fait beau, s'il y a un peu d'excédent budgétaire, si on n'est pas trop serré. Et dans les autres cas, dans les autres situations qui sont malheureusement les plus fréquentes, ben il n'y a pas assez, il n'y a pas suffisamment. Ce qui en effet se traduit par le fait qu'on a des écoles, des collèges, des lycées qui peuvent se trouver un peu coincés. Ils ne peuvent plus prélever d'argent sur les familles et puis ces établissements ont vraiment beaucoup du mal à assurer ce quotidien. De là à dire que ça a entraîné une baisse de la qualité de l'éducation, c'est un peu rapide aussi. Hein. Je veux dire, on a partout, dans tous les pays d'Afrique francophone, en tout cas, et même, je crois, en Afrique anglophone, on constate qu'en effet, la qualité de l'éducation, mesurée par des résultats d'apprentissage, elle n'est pas terrible, elle ne s'améliore pas, elle a tendance à diminuer un petit peu. Mais il ne faut pas mettre ça trop directement en relation avec les politiques de gratuité.
On va y revenir au cas du Togo, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même dans pas mal de pays des lycées qui ont de gros problèmes budgétaires pour, on va dire, joindre les deux bouts, hein, terminer la fin du mois. Nous sommes en ligne avec une proviseure de lycée public à Dakar. Bonjour Madame Fatimata Sossar.
Bonjour.
Vous êtes proviseure d'un lycée public de jeunes filles, le lycée Kennedy de Koloban à Dakar. 2800 élèves de la 6e à la terminale. C'est un gros lycée quand même.
Oui, c'est un assez gros lycée.
Combien payent les familles pour inscrire leurs filles au collège-lycée ?
Les familles payent à l'inscription 10 000 francs pour l'année scolaire.
Oui, donc c'est-à-dire 15 euros ?
15 euros, oui.
Ça, ce sont les frais d'inscription. Il y a d'autres frais aussi qui s'ajoutent ?
En fait, il y a l'uniforme. Et l'uniforme, c'est la tenue que l'élève porte. Que la famille achète pour l'année scolaire.
Ouais. Et ça coûte combien ?
Ouais. Ça coûte, les deux uniformes coûtent 15 000 francs.
Et ensuite, il y a aussi des frais supplémentaires si on est l'année du bac ou l'année du brevet ?
Oui, si l'élève passe le bac, il y a des frais qui s'appliquent, des frais de 6 000 francs pour le baccalauréat et de 2 000 francs pour le BFM. Donc, ouais. Voilà les frais que nous,
ces frais,
que les parents payent pour l'année scolaire.
Ces frais, ils sont réglementés par l'État ?
Oui, pour l'inscription est réglementée par l'État. C'est entre 3 000 et 10 000 francs. Pour les frais de bac aussi, c'est un arrêté. Et pour les frais de BFM aussi, ce sont des frais réglementés par l'État. Maintenant, pour ce qui concerne l'uniforme, c'est les associations de parents d'élèves qui décident au sein des conseils de gestion des établissements d'autoriser ou pas l'achat d'inscription pour les élèves d'uniforme.
Ouais. Oui, l'uniforme n'est pas obligatoire au Sénégal. Et est-ce que ces sommes versées par les familles reviennent en totalité à votre collège-lycée, à votre établissement ?
En fait, il y a des frais qui reviennent, les frais d'assurance, donc les charges incompressibles comme les frais d'assurance, la cotisation à l'inspection médicale des écoles pour la santé des élèves. Il y a aussi les frais qui sont pour l'association sportive, mais les frais d'inscription sont... C'est un budget que le conseil de gestion vote et que ces lignes-là sont dédiées à l'utilisation et au bon fonctionnement de l'établissement.
Mais est-ce que vous devez rétrocéder une partie de ce que vous recevez des familles, retransférer vers l'État ?
Vers
l'État.
L'État. Non.
Donc la totalité de ce que vous recevez des familles reste dans les caisses du lycée ?
Dans les caisses du lycée, sauf les cotisations comme pour l'assurance, la santé des élèves, le sport scolaire.
Et ça repart vers le ministère de l'Éducation?
Ça repart en fait vers la compagnie d'assurance qui assure les élèves. Oui. Ça va aussi à une inspection médicale où la santé des élèves est prise en charge pour l'achat de médicaments.
D'accord.
Et aussi, c'est géré au niveau interne.
Mais en échange, vous avez un médecin scolaire, par exemple, du coup, ou pas?
Oui, il y a une inspection médicale où les élèves sont référés, donc qui se charge... en théorie, de la santé des élèves. Mais dans certains établissements comme le nôtre, il y a des infirmeries qui marchent et il y a une ligne où on achète des médicaments pour les élèves. Donc, ces frais d'inscription, ces cotisations des parents-là servent aussi, entre autres, à s'occuper de la santé des élèves au niveau local, niveau de l'établissement.
Ce que je comprends, c'est qu'il faut que donc les parents remettent un peu la main à la poche pour qu'il y ait un minimum de surveillance médicale. Qu'est-ce qui se passe, Madame Saussard, quand une famille ne parvient pas à payer les frais de scolarité pour ses enfants?
Bon, nous déployons toutes sortes de stratégies, parce qu'il y a des familles qui ne peuvent pas payer. Oui. Et ces types d'élèves-là sont pris en charge par le service social de l'école. C'est une partie très minime des élèves, mais ces élèves-là sont pris en charge par le service social et leurs frais sont payés sur la cotisation des autres élèves.
Et est-ce qu'il y a des élèves qui commencent l'année en retard, par exemple, parce que les parents n'ont pas réussi à réunir la somme des 10 000 francs CFA, voire plus si c'est l'année du bac ou du brevet? Surtout quand on a une famille nombreuse et plusieurs enfants qui sont déjà dans le secondaire.
En tout cas, au niveau de notre établissement, les élèves sont autorisés à entrer en classe jusqu'au mois de janvier. Nous recevons les élèves, nous leur laissons le temps de payer et nous trouverons des solutions pour celles qui n'arrivent pas à payer les frais d'inscription. C'est très difficile souvent de recouvrer tous les frais d'inscription, mais la politique, c'est de ne pas exclure d'élèves, de faire tout pour les garder.
Madame Saussard, vous avez été proviseur également en zone rurale, je crois, dans la région de Fatick. Je voudrais vous lire le message d'un auditeur.
J'ai été censeur, pardonnez-moi.
Oui. Donc vous avez une large expérience, pas seulement à Dakar. Je voudrais vous lire le message d'un auditeur à Tambacounda qui nous dit « Les frais pour l'école secondaire sont très chers, de 8 000 à 12 000 francs CFA. C'est dur, nous sommes des paysans, on ne peut pas apprendre comme il faut. Ce sont nos frères qui travaillent et qui financent nos études. » Il y a vraiment une problématique de cet enseignement secondaire payant qui est quand même assez différente dès qu'on est en zone rurale.
Oui, on peut avoir des difficultés en zone rurale pour les frais d'inscription. C'est vrai que c'est un peu plus difficile. Moi, j'étais dans la région de Fatick, comme je vous l'ai dit, et souvent, nous avions des difficultés vraiment pour recouvrer les frais d'inscription, parce que les ménages sont souvent beaucoup plus vulnérables dans ces coins-là de notre pays. Bien qu'à Dakar aussi, il y a ces poches de vulnérabilité, surtout pour notre établissement qui polarise des quartiers où c'est un peu défavorisé quand même.
Mais alors vous, en tant que proviseur, avec toutes vos années de carrière, qu'est-ce que vous pensez de la gratuité au secondaire? Est-ce que ça serait souhaitable au Sénégal? Est-ce que ça pourrait aider les familles à laisser les enfants plus longtemps au collège et au lycée? Ou finalement, ça rendrait encore plus vulnérables vos établissements secondaires avec moins d'argent?
En tout cas, à l'état actuel, ça rendrait nos établissements vulnérables parce qu'il faut des préalables pour que la gratuité se fasse. Il faudrait une bonne subvention pour pouvoir faire marcher les établissements. Parce qu'il y a beaucoup de charges, des charges qui sont liées au personnel, des charges pour le papier, l'encre, pour la gestion des élèves vulnérables. Il y a tout un tas de charges. Et rendre l'école gratuite au moins secondaire peut créer ce type de problème-là si la subvention n'est pas conséquente.
C'est votre point de vue, François Robert, aussi, à l'image de ce qui se passe au Sénégal ?
Oui, je crois que Mme Sossar a tout à fait raison. Le Sénégal a rendu théoriquement l'école primaire gratuite, mais les subventions ne suivent pas. Et donc, c'est extrêmement difficile. On a des écoles primaires qui sont déjà dans une situation très, très tendue. Et donc, étendre ça rapidement au secondaire, ce serait difficile. Mais en même temps, on est là un peu dans la situation au Sénégal. On est un peu de... C'est un peu le jeu de la patate chaude que tout le monde va se repasser, quoi. Hein.
C'est, et puis, il y a une attente des populations. On voit bien le message de Mohamed.
Ça, c'est clair.
Il a 18 ans et il dit « c'est trop cher pour nous à Tambacounda ».
Mais bien sûr, et ça c'est une réalité. Je l'ai vu moi-même il y a très, très peu de temps dans la région de Ziguinchor. J'ai vu des parents qui étaient tout à fait démunis, trois enfants dans le secondaire avec des revenus aléatoires, ça ne marche pas.
Ça veut dire quoi dans ces cas-là ? Ça veut dire qu'on les sort du secondaire ?
Alors, de toute façon, il y a des forts taux d'abandon, notamment au début de cycle au collège. Il y a beaucoup d'enfants qui ratent la marche à ce moment-là. Mais voilà, ça met quelqu'un comme le chef d'établissement dans une position très très difficile, c'est-à-dire qu'il faut faire la chasse aux droits d'inscription, les récupérer... et donc faire le partage distingué, la famille qui ne peut pas payer et la famille qui pourrait payer mais ne veut pas payer et résiste. Et ça, c'est extrêmement délicat, personne n'a envie de le faire. Donc on a des chefs d'établissement qui se dessaisissent de ça et demandent au comité de gestion de le faire. C'est un travail qui demande beaucoup de discrétion et de tact. C'est quelque chose d'un petit peu...
Et qui prend du temps aussi pour des chefs d'établissement surchargés.
C'est quelque chose d'un petit peu difficile. Mmh. Et puis on a une autre ambiguïté où on a des textes qui disent... On ne peut pas renvoyer un enfant au motif qu'il n'a pas payé, parce que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, etc. etc. Très bien, mais donc comment on va faire on n'a pas le droit de le renvoyer, mais il faut quand même les faire payer, au moins ceux qui peuvent payer. Donc on a quelque chose de très très ambigu. J'ai entendu des chefs d'établissement au Sénégal dire « Bon, on ne peut pas les renvoyer, mais on va les menacer. Quelle est la différence ?» À un moment donné, si on est menacé de renvoi, bon, il y a la honte aussi que peut avoir la famille. Je n'ai pas payé, est-ce que je vais continuer à envoyer l'enfant ? Est-ce que l'enfant lui-même va dire, mais non, je ne peux pas y aller ? Même chose d'ambiguïté aussi sur l'uniforme, il n'est pas obligatoire, mais tout le monde l'a. Si je ne l'ai pas, est-ce que je vais continuer à y aller ?
Fatimata Sossar, votre tâche est bien compliquée sur ce sujet, non ?
Oui, très compliqué parce que, comme l'a dit Monsieur François Robert, excusez-moi. Donc, il va falloir trouver des stratégies pour ne pas rendre l'élève vulnérable dans la classe. L'élève qui n'a pas payé ses droits d'inscription peut tout simplement décider de ne plus venir. Parce que l'élève a honte de se présenter en classe, de se faire qu'on la sorte de la classe devant tous ses camarades. Nous évitons de le faire, comme il l'a dit. Nous évitons de le faire, mais c'est extrêmement difficile de faire la chasse aux inscriptions.
C'est ça. Et en même temps, il faut faire rentrer
aussi, c'est la même chose.
Ouais. Il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses du lycée. Merci infiniment, Fatimata Sossar, d'avoir été en ligne en direct avec nous. Vous êtes proviseur du lycée public de jeunes filles, le lycée Kennedy de Colobane. À Dakar, plus de 2800 élèves de la 6e à la terminale. Merci infiniment, madame.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Et bien sûr, vous pouvez continuer de nous appeler, les voisins et les voisines, sur notre compte WhatsApp. C'est le 33 7 64 45 51 41. Je voudrais maintenant qu'on regarde une expérience au Ghana. Depuis septembre 2017, l'éducation secondaire est gratuite au Ghana. Et notre reporter Charlie Dupio a joint Rita Abama, qui est enseignante, mais elle est aussi responsable chargée de l'éducation des filles au sein du district de Bongo, qui est à l'extrême nord du Ghana, tout près de la frontière avec le Burkina. Burkina Faso. Dans chaque localité ghanéenne, d'ailleurs, il existe un poste qui est financé par le gouvernement pour un fonctionnaire qui doit identifier, aider les filles déscolarisées dans les communautés. Alors le Ghana, un pays modèle pour le secondaire, peut-être, mais au prix de certains sacrifices.
Ghana is a model in the sense that secondary education is free now.
Le Ghana est un modèle dans le sens où l'éducation publique secondaire est maintenant gratuite. Les élèves ne paient pas de frais de scolarité. Alors pour cette raison, on peut dire que le Ghana pourrait être un modèle pour d'autres pays. Mais il reste des défis pour que ça soit vraiment effectif. Car comme c'est gratuit, tous les enfants veulent aller à l'école. Et le nombre d'inscriptions au secondaire a augmenté. Et comme les élèves inscrits sont plus nombreux, nous avons un système qu'on dit à double voie qui a été mis en place dans nos collèges et nos lycées. Un groupe d'élèves va à l'école pendant 3 mois, puis les élèves rentrent chez eux et un autre groupe prend leur place à l'école. Ces 2 groupes alternent. Donc j'espère vraiment que le gouvernement travaille assez dur pour construire assez d'infrastructures dans le secondaire. Il faut qu'on puisse abolir ce système de roulement et que tous les enfants puissent aller à l'école en même temps.
Then for my work in Ghana, especially rural communities, they are peasant farmers.
Mon travail au Ghana, je le mène surtout dans les communautés rurales, avec des fermiers et des agriculteurs. Le taux de scolarisation des filles est encore très faible dans ces communautés, car les parents préfèrent dépenser le peu qu'ils ont pour envoyer leurs garçons à l'école au détriment des filles. Dans ma localité, on nous donne un quota pour encourager la scolarisation des filles. Par exemple, dans une école particulière, on va sélectionner 100 filles, seulement des filles qui sont dans le besoin, et on va leur acheter des objets personnels, comme du savon pour se laver, des sandales, des stylos, des outils pour les mathématiques, comme des calculettes, des cahiers, pour que ces élèves soient à l'aise quand elles vont à l'école.
Alors ça, c'est pour les filles. Et pour les garçons qui viennent de familles défavorisées, qu'est-ce qui est mis en place pour qu'ils puissent aller au collège et au lycée ?
In Ghana, we also have a project called Secondary Education Improvement Project.
Au Ghana, nous avons aussi un projet appelé Projet d'amélioration de l'éducation secondaire. C'est un programme gouvernemental. Quelques élèves qui sont vraiment démunis sont choisis parmi ceux qui sont inscrits dans des écoles de quartiers défavorisés. On leur donne la somme de 375 CEDIS, c'est l'équivalent de 50 euros par semestre, pour pouvoir répondre à leurs besoins fondamentaux. Ça, c'est pour les filles et les garçons. Mais ce programme va se terminer à la fin de cette année. On espère qu'il y aura ensuite un autre programme mis en place pour emmener les élèves les plus vulnérables dans nos écoles secondaires.
Alors c'est vrai que la gratuité de l'enseignement secondaire au Ghana, ça a joué dans la réélection du président Nana Akufo-Addo qui a misé sur ce bilan du fameux Free Secondary High School. Ça a fait progresser les taux nets de scolarisation au secondaire, ça a augmenté en 3 ans, on est passé de 55% à 60%. Est-ce que vous diriez dans l'ensemble que quand François Robert, l'enseignement secondaire est gratuit, on a un véritable effet sur l'achèvement du cycle secondaire pour les élèves ?
Malheureusement non. Quand on examine des séries statistiques longues, on ne voit pas ça. Ce qu'on voit, c'est qu'une mesure de gratuité, elle produit assez rapidement des effets. On a un afflux qui peut d'ailleurs poser problème si ça n'a pas été correctement anticipé. Et puis après, la courbe reprend sa forme initiale, légèrement ascendante. Donc on a un effet d'aubaine chez les familles. À un moment donné, on se dit c'est gratuit, tiens, on va continuer les études, etc. Et cet effet d'aubaine, au bout de 2-3 ans, il s'efface.
Et pourquoi ?
Donc c'est pas quelque chose de magique. Probablement parce que, gratuité ou pas gratuité, il reste de toute façon des charges relativement importantes pour les familles, hein, tout l'équipement personnel, souvent les manuels, des choses comme ça, ces fameux uniformes dont un jour il faudra quand même bien questionner l'utilité éducative. Sans parler à partir de l'âge de 13 ou 14 ans, ce qu'on appelle les coûts d'opportunité, c'est-à-dire que l'enfant, en continuant ses études, il ne collabore pas aux activités productive de la famille ou de l'environnement, et donc ils se privent de revenus. À 13-14 ans, la plupart des gens peuvent gagner de l'argent. Et ça, c'est difficile, ça ne peut être combattu que par des programmes sociaux d'aide à grande échelle. Il y a des tentatives, comme celles dont on entend parler là à l'instant au Ghana, mais c'est un très long chemin.
Est-ce que vous avez étudié le cas du Cap-Vert ? Est-ce que c'est un élève à regarder de plus près dans le financement de l'éducation publique, notamment sur la gratuité du secondaire, le Cap-Vert ?
Oui, c'est un modèle à regarder de près. Alors, le Cap-Vert, c'est très particulier parce que c'est tout petit. Le Cap-Vert se caractérise par une grande continuité des politiques publiques en éducation depuis des décennies et des politiques extrêmement progressives. C'est-à-dire qu'on a commencé par généraliser l'école primaire, la rendre gratuite, la sécuriser, essayer de faire en sorte qu'elle soit de bonne qualité, ce qu'elle est de fait. Et puis après, on passe au secondaire junior, puis après au secondaire senior, à pas relativement lent, mais à chaque fois... Tout ça s'intègre à une espèce de planification de long terme qui est bien faite et une grande continuité dans les politiques publiques. Sans doute facilité par le fait qu'au Cap-Vert, on est sur une toute petite échelle. L'ensemble de la population du Cap-Vert, ça ne fait pas un quartier de Kinshasa.
Ouais, mais, oui, c'est une bonne comparaison. Mais en même temps, avec un choix politique très continu, vous le dites, hein, peu importe les alternances politiques, mais aussi un choix de consacrer une bonne partie du budget d'État à l'éducation.
C'est plus de 5% du PIB qui est consacré à l'éducation à Cap-Vert, avec une pression démographique relativement modérée par rapport à celle qu'on a sur le continent. Mmh. Mais ça, c'est important, effectivement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rêver
à
avoir une éducation...
Le double de la Guinée-Conakry, par exemple, en termes de dépenses d'éducation par rapport au PIB.
Ah ben, la Guinée-Conakry sous-finance complètement l'éducation. Ils sont aux alentours de 2% du PIB, ce qui, avec une forte pression démographique, ne peut pas laisser espérer gratuité, qualité, accès généralisé. Ça, c'est pas possible.
Et en même temps, le Sénégal n'est pas loin des 5% du PIB.
Mais donc... le grand mystère du Sénégal, c'est ça, c'est que c'est un secteur de l'éducation très bien financé, avec des résultats qui, au regard du financement, sont très décevants.
Et pour le Togo, alors je sais que vous étiez il n'y a pas si longtemps, François Robert, au Togo, vous avez vu des collèges, lycées très démunis.
C'est difficile, la situation est difficile. Alors la gratuité, elle est totalement effective au Togo, à l'école primaire, et le gouvernement togolais, il a la particularité de suivre les mesures qu'il prend. C'est-à-dire que quand on a interdit quelque chose, c'est effectivement interdit, il n'y a pas moyen de contourner. C'est relativement exceptionnel, il n'y a pas de demi-mesure, quoi. On est, de ce point de vue-là, très sérieux. Ce qui veut dire aussi qu'une mesure de gratuité pèse sur les écoles, parce qu'elles ne peuvent pas, par des cotisations parallèles, par des choses comme ça, arriver à se financer. Mais on a aussi des situations tout à fait terribles. J'étais il n'y a pas 10 jours dans un établissement secondaire, un collège, à une soixantaine de kilomètres, mettons, de Lomé, et on voyait un collège à peu près de 600 élèves totalement démunis. Il n'y a pas de ressources, il n'y a rien. C'est tout juste si on ne tombe pas en panne de craie. Et alors là, il y a des moments où on est presque ému, quoi, de voir ça. On discute avec le directeur de ce collège et il dit avoir reçu, donc en juin 2021, il a reçu la subvention d'urgence Covid. C'est-à-dire il l'a reçu un an après, les subventions qui viennent du Partenariat mondial de l'éducation. Et pour 600 élèves, il a reçu 137 600 francs.
CFA.
Ça fait 100 000 francs, ça fait 150 euros. Donc il a reçu 200 euros, quoi, quelque chose comme
ça. Pour 600 élèves.
Pour 600 élèves. Alors, en fait, il n'en avait reçu que la moitié. C'est quand il aura bien montré qu'il a bien dépensé la première moitié, c'est-à-dire une centaine d'euros, qu'il aura la deuxième moitié de la subvention. Mmh. Un an après les événements de Covid. Donc on se dit là, quand même, l'aide internationale, elle n'a pas brillé, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Ben, il va acheter du savon, parce qu'il n'y a plus de savon. Puis il va remplacer les bassines qui servent à se laver les mains parce qu'elles étaient de mauvaise qualité. Et avec le reste, s'il reste quelque chose, il va racheter 3 exemplaires d'une œuvre au programme, parce qu'il n'en a que 2 pour une classe de 60 élèves. Ça fera 5, ça suffira toujours pas pour 60 élèves pour étudier l'œuvre au programme. Et l'œuvre au programme, certainement adaptée au contexte togolais, c'est le Malade imaginaire.
De Molière.
Voilà.
Voilà, et ben édifiant hein, ce que vous nous racontez là sur le Togo. Je vais vous lire aussi le message de Ryan qui a 18 ans, qui est en première S à N'Djamena au Tchad. Il nous dit « J'ai quitté l'enseignement privé en 5e, c'était trop cher. Mais le problème dans le public, c'est le manque de matériel et de profs. Ils sont mal formés. Les profs ne sont pas payés, donc il y a des grèves. » Voilà un lycéen courageux en première S à 18 ans et en plus qui écoute RFI, ça ne peut pas faire de mal. Bon courage en tout cas à vous tous. Peut-être un dernier mot, François Robert, il nous reste quelques secondes. Les conditions pour une vraie politique de gratuité dans le secondaire, ça serait quoi? Parce que à terme, bien sûr que les institutions internationales vont peser pour que la gratuité arrive aussi dans le secondaire, puisqu'on a tellement fait pour le primaire.
La première condition, ce serait sans doute patience et longueur de temps et de la planification. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc c'est une affaire de 10 à 15 ans avant d'y arriver convenablement. Je pense qu'une autre condition, c'est d'arriver à être très clair dans la réglementation. Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est autorisé? Jusqu'où va la gratuité? De façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté vis-à-vis des populations et qu'on ait un régime à peu près unifié sur un territoire et pas d'inégalité territoriale vis-à-vis de ça.
Merci beaucoup François Robert, spécialiste de l'éducation, consultant international en Afrique. Vous avez publié Binetta et Mamadou, je recommande l'ouvrage Bref, chronique des écoles africaines au début de notre siècle. C'est publié en Guinée aux éditions Gandal. Dans quelques instants, ce sera la chronique du psychologue Ibrahim Haïdara, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Ce sera juste après un reggae mauricien que je vous offre. Black Ayo Vergino. A bientôt François Robert.
A bientôt, merci.
Ouais, puis en plus, pas les corps. Avec l'homme sous mon talité. Ça de moi, puis l'envie prend les corps. Moti à tangue, tout pour sans beaucoup banane et mon gueule d'espoir. Dis qui me bâti à tangue. Sa quantité, mentalité noire. Ça même pour oublier d'un couloir. L'action reste en mémoire. Tengue, tout qui m'en dit rayon pour mettre moi à bord dans mon palais quoi. Dans mon life, moi comme beaucoup mine. Petit diamant, moi-même je te quitte. Après mon sentiment victime, parfois dans la vie, moi préfère vivre solo. Ouais, solo. Préfère vivre solitaire, célibataire. Pas passer pour mon redon moléter. Solo. Facile pour mon redon moléter. Camaraderie, considère comme ma famille. Tout ça, moi, c'est mon fin de si. Pas sans abri, amène la casse comme ma famille. Tout ça, moi, c'est mon fin de si. Man qui prend moi tout le temps pour un imbécile. Ça me fait me partir d'un mauvais qui. A fait ce trapos, moi, avec un gros sourire. Popé trous, autres mari ridicule. Les imprudents quand on rend une relation. Bien souvent, ça finit par déception. Devant moi, toi, tiens-moi, ton mari contre moi. Derrière moi, ton bébé, tous les contraires. Devant moi, toi, amène, roule ton beau sauveur. Derrière moi, toi, même, pécré, mot malheur. Il se plie pour brise, il y avait bouffé l'énergie. Sa bonne esprit, la vie, femme, préfère vivre solo. Ouais, solo. Préfère vivre solitaire, célibataire. Pas passer pour mon redon moléqué. Solo.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Ce sont des conseils aux parents sur la famille, sur l'éducation des enfants, avec le psychologue Ibrahim Haïdara. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychologue à Bamako. Le mariage, mariage d'hier, mariage d'aujourd'hui, mariage de demain, c'est une institution qui se transforme en permanence.
Avec mon regard de psychologue, je me pose la question comment les mariages seront célébrés ou même ne seront plus célébrés dans quelques décennies. Parce qu'avec l'évolution des choses, on constate effectivement qu'il y a un grand changement. Les mariages d'hier, ils étaient beaucoup mieux préparés. Les parents anticipaient plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Dans certaines petites localités, par exemple, l'enfant était choisi depuis l'âge pubertaire. Et ça, ça a changé. Maintenant, on attend l'âge adulte pour préparer ou même annoncer le mariage à un enfant. Les parents étaient beaucoup plus complices d'une façon ou d'une autre. Ils essayaient de tout faire pour trouver pour leur fille, parce que c'est elle qui était au centre du mariage, le mari idéal. Il y avait tout un tri et ça ne se passe plus comme ça. On voulait que ça marche à tout prix. Ça, c'était vraiment l'objectif du père comme de la mère. On voulait que ce mariage réussisse. Il y avait une grande enquête sociologique, une enquête qui peut tourner autour de l'ethnie, de la profession, de la religion. Et cette enquête sociologique, elle était subordonnée à une enquête familiale. Ça a tendance à disparaître.
Oui. Parce qu'on l'entend bien, hein, certains auditeurs vont se dire oh, « bah, le psychologue, là, il est rudement conservateur. Vous n'êtes pas en train de faire tout à fait l'apologie de la liberté de choix. Est-ce que c'est ce que vous déplorez finalement aujourd'hui ?» Trop de liberté pour les jeunes qui veulent choisir leur partenaire ?
Non, il faut bien sûr donner la liberté parce que celui qui se marie, c'est lui qui va vivre.
Ouais, parce que ce que vous nous avez décrit, c'était les mariages arrangés avant.
C'était les mariages préparés. Ouais. Ils pouvaient être arrangés, mais ils étaient préparés dans le sens où on pouvait demander à un moment donné l'avis du fils ou de la fille. Est-ce qu'il te convient ou est-ce qu'elle te convient ? Ça ne se passe plus comme ça.
Là, comment ça se passe alors ?
Ça tombe sur le couple. Le nouveau marié ou la nouvelle mariée, subitement, on lui impose un mari sans pour autant le préparer ou la préparer. Parce qu'on se dit que si jamais on le prévient à l'avance, il va refuser pour X raisons, parce qu'il y a beaucoup de parents conservateurs. Et les jeunes ont changé. Ils veulent maintenant marier ceux qu'ils aiment. Parce que l'amour est maintenant au centre. C'est moi qui aime un tel, je veux me marier à un tel. Et ça explique pourquoi les choses sont de plus en plus difficiles.
Donc vous déplorez une trop grande précipitation ?
Une trop grande précipitation, parce qu'on s'est dit qu'on prend de l'âge, l'homme prend de l'âge, mais c'est surtout la femme qui prend de l'âge. À partir de 30 ans, on s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Et donc du coup, on veut forcément faire un mariage sans pour autant prêter attention aux conséquences. Les conséquences, c'est quoi ? On ne se connaît pas, on n'a pas demandé l'avis, et puis tout est centré sur l'argent. On veut faire un grand mariage, ce qu'on appelle maintenant au Mali le mariage mondial. C'est-à-dire pour que tout le monde en soit vraiment témoin. Parce qu'on a fait du gâchis derrière.
Mais alors ce mariage mondial, il est institutionnel, il est coutumier, il est religieux. Il est quoi ce mariage mondial ?
Il est plus coutumier parce que ça ne concerne pas forcément le mariage religieux. C'est que les femmes aiment célébrer des mariages qui laissent entre guillemets des traces. Elles veulent qu'on se souvienne qu'il y a eu telle ou telle personnalité présente à un mariage ou bien qu'il y a eu énormément de monde présent sans pour autant savoir si le mariage va être un mariage qui intéresse les deux, le couple, monsieur et madame. Donc c'est plus du monde, du folklore autour et donc du coup, ça ne marche pas forcément très bien.
Un mariage instagrammable finalement. Voilà. Alors des conseils, Ibrahim Haïdara.
Ce qui est très important, le premier conseil que je vais donner, c'est pour les couples. Que les couples sachent que c'est eux qui se marient, ce n'est pas les parents qui se marient. Et les couples doivent vraiment échanger entre eux. Ils doivent savoir ce qui est essentiel pour eux deux, parce que c'est eux qui vont vivre les moments difficiles ou les moments agréables. Qu'est-ce que ces couples aimeraient avoir comme projet de vie ? Il faut qu'on en parle. Partager ces moments de projet de vie, en tout cas ces projets de vie avec les parents sans pour autant céder à l'essentiel du mariage. Parce que parfois, compte tenu du respect exagéré entre guillemets, envers les parents, on cède à l'essentiel du couple. Et ça, ce n'est pas bien.
Qu'est-ce que ça veut dire céder à l'essentiel ?
Céder à l'essentiel, c'est-à-dire que moi, en tant que futur marié ou marié, je veux absolument vivre dans des conditions modestes. Oui. Je vais vivre chez moi et je ne vais pas vivre chez mes parents. Parce que la vie maintenant chez les beaux-parents est de plus en plus difficile. Et c'est de là que ça craque.
Les dernières recommandations ?
Une dernière recommandation, l'amour, qui doit toujours être au centre du couple, plutôt que l'argent. Et aussi, un point essentiel en quelques secondes, le désir d'enfant. Parce qu'on est dans une société traditionnelle où on veut toujours demander à la femme est-ce qu'elle est prête ou est-ce qu'elle va faire un enfant ? Mais on ne demande jamais l'avis des deux conjoints. C'est eux qui veulent faire des enfants, c'est à eux de savoir si c'est pour maintenant ou pour plus tard.
Merci Ibrahim Haïdara. Ce sont des évidences, mais pas tant que ça. À vous de réécouter tous ces conseils, toutes ces prises de conscience. Conservatrice et pas forcément d'ailleurs, du psychologue Ibrahim Haïdara. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Et demain, 7 milliards de voisins, on se retrouve à l'occasion des élections présidentielles en Iran. On parlera de la jeunesse, 40% de la population a moins de 25 ans. Une génération très diplômée, très connectée et très concernée par le chômage et la crise économique. Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous qui prépare les émissions éducation, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur les plateformes de téléchargement. Dans quelques secondes, ce sera le journal sur RFI.